Merci Benoît de prier pour moi. Et merci pour tous les autres aussi qui ont prié pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. En tout cas, merci pour le groupe de louanges, les musiciens. Merci Benoît pour cette belle présidence. Et quand il parlait de cet homme, je pensais vraiment que Jésus également est passé dans cette cité où ce que j'habitais avant. Et il a touché le cœur de mon frère. Comme cet homme appuie, il raconte son témoignage. Et tout le monde était dans l'étonnement. Et effectivement, quand on écoutait le témoignage de mon frère, tout le monde était étonné de voir comment Dieu a agi dans sa vie. Celui qu'il connaissait avant, mon frère, et comme il est aujourd'hui, il y a une grande différence. Et il l'a fait pour vous également et pour moi aussi. Merci Benoît. Ce matin, je voudrais vous encourager à travers ces quelques versets qu'on va lire. Il est bon de s'encourager les uns et les autres. Et j'espère, c'est ma prière, qu'en sortant d'ici, nous soyons encouragés. Alors, Olivier va m'aider un petit peu avec quelques photos. Il va montrer une photo ici. Je ne sais pas si on voit bien. C'était moi quand j'étais jeune. Nous voyons ici deux personnes qui sont sur un ring pour un combat. Et certainement que ces deux personnes ont passé des heures et des heures, des semaines, des mois, et peut-être même des années d'entraînement. Et voilà qu'ils sont tous les deux sur un ring. Tu veux bien passer la deuxième photo. Et voilà. Je voulais montrer cette photo parce que dans un ring, ça cogne. On joue pas. Là, ça cogne. Ça fait mal et certainement qu'ils ressentent des douleurs. Tu veux bien montrer la troisième photo? Et on voit dans cette photo, cette troisième photo, que c'est le chaos, c'est l'abandon de la personne. Et je crois vraiment que dans notre vie, c'est une vie de combat. Et ça, c'est une réalité de tous les jours. Est-ce que je suis conscient de cette réalité? Ça cogne tous les jours. Ça fait mal. Et on ressent même les douleurs jusqu'à être KO. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, a remporté la victoire. Il est dit dans 1 Corinthiens que « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous devons, les uns les autres, marcher dans cette victoire. Mais comment marcher dans cette victoire? Ben, l'apôtre Paul parle du combat. Et pas n'importe quel combat, non pour remporter la victoire, parce que nous avons déjà la victoire, mais plutôt le bon combat. Le bon combat. Alors, je voudrais lire avec vous quelques versets dans la première épître de Timothée, au chapitre 1, et nous lirons les versets 18 à 20. « le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, quelques paroles pour remettre ces quelques versets dans son contexte. Son fils spirituel, il veut le protéger, comme il a fait Benoît. En ces instants, il a prié pour moi. Et Timothée a eu un père spirituel, c'est l'apôtre Paul. Timothée est laissé à Éphèse, à cette église ou assemblée d'Éphèse. Mais il y a effectivement des personnes qui ne partagent pas la même chose, les mêmes convictions que leur pasteur. Et ça, on peut lire quelques versets pour voir un peu le contexte. Dans ce chapitre 1 du jour, les versets 3 à 7, il est dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, et qu'on écoute ce qu'il est en train de dire, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Il veut être docteur de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Puis au chapitre 4, on va un peu plus loin, les versets 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et parfois quand on lit ça dans les derniers temps, on pense aujourd'hui, ben on achève ces derniers temps, mais c'est déjà à l'époque quand Jésus est ressuscité. C'est déjà les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux... Attendez, parce que ça a bougé. Quatre. Pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà, jusque-là, la lecture. Voilà la recommandation de Paul, c'est de viser sur les faux enseignants. Il y a des personnes qui enseignent autre chose que la parole de Dieu, des paroles qu'il n'y a même pas de fondement. Ils ont construit eux-mêmes ces paroles. Et l'apôtre Paul dit même des doctrines de démons, qui veut dire une théologie mensongère pour confondre et pour tromper la vérité. Timothée a passé beaucoup de temps avec l'apôtre Paul, des heures et des heures, des semaines, des mois et des mois. Paul l'a entraîné, Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres, dans 2 Timothée. Timothée est également sur le ring, qui est l'Église ou l'Assemblée. Il a été désigné, même plus. C'est celui qui a reçu cette prophétie sur lui qu'il doit combattre ce bon combat. Et Timothée doit mettre de l'ordre dans l'Église. Il faut neutraliser ces faux enseignants. Voilà pour le contexte. C'était long, mais je voulais vraiment qu'on puisse comprendre ce qui se passe à Éphèse. Et c'est ce matin, je voudrais qu'on regarde ces versets pour chacun de nous, dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, ce n'est pas ici à Jumet qu'il y a des faux enseignants. Loin de là, Mehdi est celui qui fait attention à cela. Mais plutôt, ces versets, on va les prendre pour nous, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, là où je suis. Il est bon de combattre le bon combat. Alors, ce premier point, Timothée doit faire une chose qui est très importante et que nous devons le faire également. Il est dit, tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. La victoire, tu l'as déjà remportée. C'est pas toi, mais c'est Jésus-Christ. Mais tu dois garder la foi. C'est quoi de garder la foi? Mais c'est de garder la vérité. Mais c'est quoi de garder la vérité? Mais c'est de garder la parole de Dieu. La foi ici désigne la foi dans l'Écriture. La regarder, la garder, la méditer, te nourrir. Mais aussi, ce qu'il doit faire, Timothée et chacun de nous, de la prêcher. De la prêcher, bien sûr, de rendre témoignage. Voilà le bon combat. Mais il y a des personnes qui veulent rajouter dans la parole ou retirer certaines paroles de l'Écriture. Et Timothée est là pour dire la vérité, qui est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui, il connaît Timothée. Et il lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de courage. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, pour moi, nous aussi, nous devons combattre ce bon combat qui est de garder la foi, de garder la parole de Dieu, de la méditer, de se nourrir et de l'annoncer. Parce que alentour de toi, il y a certainement des personnes qui veulent retirer des paroles de la vérité ou rajouter dans la parole de la vérité. Et cela peut te mettre des doutes jusqu'à te faire du mal et jusqu'à te mettre KO. C'est pourquoi on nous enseigne souvent et souvent de toujours garder la parole de Dieu. Le bon combat, c'est de revenir vers la parole de Dieu. L'adversaire, il veut une chose, c'est te confondre, te tromper, il est le menteur. Et je me souviens, et vous vous souvenez certainement de votre conversion. Je l'ai déjà raconté, mais c'était en soirée que je me suis converti. Et voilà, après cette prière, ben c'est plus le même Gino, logiquement. Mais il y a une réalité, et une vraie réalité, c'est que le lendemain, je faisais l'après-midi, je devais aller chercher mon collègue. Oh. Et je devais lui annoncer ce témoignage. J'avais peur. Comment lui parler? Dieu m'a encouragé. Il m'a entraîné pour que j'annonce cette bonne nouvelle. Et il a entendu cette bonne nouvelle. Et voilà que, bien sûr, dans l'usine, c'est plus le même Gino. Je dois annoncer aussi ce témoignage aux uns et aux autres. Wow. Et Dieu m'a entraîné pour que je puisse le faire. Et puis, bien sûr, dans la cité, avec mes potes, c'était aussi annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est eux, c'était eux-mêmes qui venaient vers moi pour me dire, « Gino, annonce-nous encore des histoires. » Après, il y avait, bien sûr, des congrès, des cours de CFM que j'ai pu faire. Mais là derrière, pourquoi je raconte cela? Parce qu'il y avait un entraîneur qui m'entraînait à le faire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, allez, il y a encore ce deuxième souffle. Et puis aujourd'hui, après tant d'années, est-ce que c'est toujours la même chose? Il y a deux choses, il y a deux réalités. La première, c'est peut-être qu'on se refroidit. Mais il y a une autre réalité qu'on ne dit pas souvent. C'est que ton entraîneur, le Seigneur Jésus-Christ, te laisse tout seul. Pas qu'il n'est plus là, il est toujours avec toi. Mais il te laisse dans ce ring pour combattre ce bon combat. Je t'ai laissé la parole de Dieu. Vas-y. Au début, on est tout flamme, tout feu, parce que notre entraîneur est juste à côté de toi. Il t'entraîne, mais à un moment donné, il te laisse. Comme l'apôtre Paul a dû laisser Timothée à Éphèse. Il n'est plus là. Et il doit faire tout seul ce que l'apôtre Paul lui a enseigné. Et il y a une réalité, mes frères et sœurs. Nous sommes jour après jour dans ce ring à combattre le bon combat, mais Dieu t'a laissé la parole de Dieu. Garde-la, cette parole de Dieu. Médite-la, mais annonce-la, comme tu l'as entendu, toi aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Olivier, si tu veux bien envoyer cette photo. Je sais qu'il a fait des efforts pour la voir. Est-ce que c'est qui ça? Pinocchio. Moi, j'aimais bien Pinocchio. Je ne sais pas si les enfants regardent encore Pinocchio. J'avais même une assiette Pinocchio. Mais une chose qui est sûre et certaine, on n'est pas fait de bois. On est fait de chair. Mais regardez la dernière image. C'est qui ça? Jiminy Cricket. Je crois que maintenant, on peut allumer Jiminy Cricket, qui est la conscience morale. Une petite voix qui dit à Pinocchio d'agir correctement et de prendre les bonnes directions et pas les mauvaises. Timothée doit garder la foi et une bonne conscience. Les deux vont ensemble. Timothée doit garder la foi et une bonne conscience. Et il est dit que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage. toi, Timothée, garde la vérité et aussi une bonne conscience. C'est quoi la conscience? Vous pouvez voir dans Romains, mais je vais le dire. C'est la faculté que Dieu a donnée à tous les êtres humains. C'est une bénédiction que Dieu a donnée la conscience à tout le monde pour porter des jugements de la valeur morale. Ce qui est bien et ce qui est mal. Dès qu'on fait une erreur, notre conscience réagit, il nous accuse et il engendre en nous une culpabilité. J'ouvre une parenthèse et je la referme parce que je trouvais ça très beau, pas dans le sens de ce comment on l'entend. C'était une tribu d'Afrique. Ils avaient un moyen efficace pour voir si l'accusé était coupable ou pas. Ils chauffaient une lame d'un couteau pour toucher la langue avec la lame, qui était très, très, très chaude. S'il y avait de la salive sur la lame ne collait pas et elle causait moins de douleur. Si la langue était sèche, par contre, la lame collait sur la langue, alors la brûlure était plus grave et plus douloureuse. Les gens de la tribu savaient que la culpabilité a tendance à sécher la bouche. Je referme la parenthèse et ne regardez pas la bouche de votre voisin, surtout. Mais je trouvais ça beau. Effectivement, notre conscience réagit par une culpabilité. Et la parole va encore plus loin. Une honte, une crainte, des remords et le désespoir. Or, celui qui a une bonne conscience, elle ne peut que produire la paix. L'assurance, la joie, l'espoir, le courage et bien sûr la satisfaction. Alors, comment elle fonctionne, cette conscience, chez la personne? Elle donne un signal, une alarme. Justement, quand je préparais ça là, ce message, et j'étais à ce moment-là, pour préparer ça, il y a l'alarme de mon voisin qui sonne, qui veut dire danger. La conscience, c'est ça. Il te prévient qu'il y a un danger, une alerte. C'est comme aujourd'hui les voitures modernes. Quand tu roules et il y a un obstacle, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle sonne. Attention, il y a un obstacle. Une trottinette, une personne, quoi que ce soit. Elle se met en rouge et elle freine et te dit « attention ». Notre conscience fonctionne la même chose. Attention, attention. Je me rappelle, il y a quelques années d'ici, en 2011, notre pasteur, c'était Jean-Claude. Et c'était lors d'une réunion de prière ou d'étude. Je voulais lui poser une question. J'attends que tout le monde s'en va pour lui poser la question. C'était au moment des attentats, ces tours jumelles qui se sont écrasées. Et je dis, Jean-Claude, mais pourquoi Dieu a laissé faire ces personnes? Avec sa puissance, avec sa force, il pouvait faire détourner ces avions. Et pour ceux qui connaissent Jean-Claude, tout calme, tout doux, il me répond, « Gino, tu crois que leur conscience ne leur a pas parlé ?» Effectivement, cette conscience a sonné dans leur cœur. Non, pas dans leur cœur, dans leur âme. Ça a sonné, et je dirais même deux fois, dans leur âme, mais aussi dans cet avion. Il était trop bas en altitude. Certainement, ça sonne. Vous êtes trop bas. Ça a sonné. Qui veut dire, mes frères et sœurs, que la conscience, tu peux l'écouter ou la refuser. Et certains ont fait un naufrage, comme ces pilotes. Ils ont été écrasés. Je ne voudrais pas qu'on soit écrasés. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on peut écouter notre conscience ou on peut désobéir à notre conscience. On peut la refuser. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit faire attention. Que la conscience, ce n'est pas la voix de Dieu. Et souvent, nous avons tendance à dire « Dieu m'a dit ». Attention de dire cela. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je dois me marier avec toi. Dieu m'a dit que je dois aller à tel et tel pays. Un théologien, John MacArthur, dit sur la conscience, notre conscience fonctionne comme une lucarne et non comme une lampe. Elle ne produit pas la lumière, mais elle laisse seulement entrer la lumière morale. Je trouvais ça magnifique. Pour qu'elle fonctionne correctement, notre conscience, elle doit avoir la bonne formation. Comme l'apôtre Paul dit, garde la foi, garde la vérité, la parole de Dieu. Le croyant doit toujours se soumettre à la parole de Dieu, la méditer, pour que notre conscience saisisse toute l'Écriture, afin qu'elle te donne la bonne formation. Pourquoi je dis cela? Parce que notre conscience a aussi péché. Tout mon corps a péché. C'est pourquoi parfois elle me donne des informations erronées, qui ne sont pas bonnes. Combien de fois elle se trompe? Hébreux chapitre 9, verset 14, il dit « Le Christ a versé son sang pour purifier notre conscience », qui veut dire « Notre conscience a été aussi péché. Elle a commis le péché. Et parfois, elle nous donne des mauvaises formations. Combien de fois elle me dit, à moi, ma conscience, elle m'accuse des péchés passés, que j'ai demandé pardon. Combien de fois elle me rappelle ces choses. Et je dois lui dire à ma conscience, mais tu te trompes. Regarde un peu Hébreux au chapitre 10, au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oh, ma conscience a été purifiée. Ces péchés-là, ils ont été purifiés. Pourquoi tu reviens avec ça? Pourquoi tu reviens avec ça? La conscience fait deux choses, mes frères et sœurs. Soit elle t'accuse, soit elle te excuse. Timothée est appelé à garder la foi et une bonne conscience. Timothée est dans ce ring. Ces gens enseignent ces deux choses, mes frères et sœurs. Soit elle t'excuse, ou elle t'accuse. À tes excuses, dans le but d'apaiser ta conscience par rapport à tel et à tel péché. Ce n'est pas grave, ces péchés-là. Ils essayent d'apaiser ta culpabilité. Oh, ce péché, c'est pas grave. Moi, je le remarque quasiment, je ne veux pas dire tous les jours, mais souvent quand je suis au travail. Combien de fois je vais demander une paire de gants à quelqu'un, au magasinier, et parfois on me dit, le magasinier, bah, tu peux la reprendre chez toi, il n'y a pas de souci. Tu sais, le patron, il gagne tellement d'argent que tu peux la prendre. Il est en train d'apaiser mon conscience, que je peux la prendre sans problème. Tu vois, ce cutter, tu peux le prendre. Quel patron, il gagne des millions. Il est en train d'apaiser ma culpabilité. Et souvent, avec les autorités, c'est la même chose. Ils nous volent et tellement d'argent que moi aussi, je peux lui en voler un petit peu. On est en train d'apaiser notre conscience. Il y a un pasteur, mais ça fait des années que je l'ai entendu, et il a dit quelque chose qui est resté dans mon cœur. Chapeau à ce pasteur. Il racontait dans sa prédication, il était professeur. Et à la fin de sa carrière, il pouvait prendre des congés de maladie. Et ses collègues lui disent, hey, tu ne prends pas tes congés de maladie? Tu sais que tu as droit? Et lui répond, oui, j'ai droit. Si je suis malade, je dois faire un certificat. Et ce pasteur a dit, je peux comprendre mes collègues. Ils ne comprennent rien dans l'écriture. Mais que l'Église me le dise, ça c'est plus grave. L'Église lui dit, tu peux prendre tes congés de maladie, prends-les. Et lui a dit, mais je ne suis pas malade. On essaye d'apaiser notre conscience. Vous allez me dire certainement cette expression, être plus catholique que le pape. C'est vrai. Je l'entends souvent, même avec mes ingénieurs, souvent, ils me le disent. Timothée a cette responsabilité, mes frères et sœurs, de dire la vérité. Voilà le bon combat, de dire la vérité, avoir sa conscience tranquille envers Dieu, mais aussi envers tous les hommes et les femmes qui sont l'entour de lui. Vendredi, j'étais avec un collègue et je devais lui dire la vérité. C'est tellement difficile de dire la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit à Timothée qu'il faut plein d'amour. Mais ma conscience n'était pas tranquille, qu'il fallait que je lui dise la vérité. Je lui ai dit la vérité. C'est toujours difficile de dire la vérité. Mardi, avant la réunion de prière, j'ai eu un coup de fil. Pas sur mon GSM. Téléphone fixe. Une femme, très gentille. Téléphone qui sonne. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Fuca? Oui. Ici, c'est l'Office national des pensions. Ouah, j'ai ma pension! Super! Non. Ce qu'elle me dit, elle me dit, monsieur, vous avez une facture non payée de 894 euros à payer. Waouh ! Je lui dis, madame, ce que vous faites est très très mal. Pourquoi ? Et je lui dis, ce que vous êtes en train de semer, un jour ou tard, vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Hop, elle me raccroche. Je savais que c'était pas sérieux. Elle s'est trompée de personne. Je sais mes factures quand je ne les paye pas. Mais cette femme, est-ce qu'elle a la conscience tranquille? J'aimais bien, à l'époque, les mafieux voler aux riches pour donner aux pauvres. Et ils croient qu'ils avaient une bonne conscience. Loin de là. Loin de là. Chaque jour, ils ne savent pas dormir. Leur conscience n'est pas tranquille. Ça, c'est par contre pour nous apaiser. Mais parfois, elle veut nous accuser notre conscience par des personnes alentour de nous. Il rajoute et il rajoute des règles et des règles humaines. Les religions, c'est les plus forts, ainsi que les pharisiens. Ils aimaient rajouter pour que notre culpabilité agisse. Notre conscience agit. Oh, Gino, t'es pas venu avec des lacets rouges à l'église? Ben, ça représente le sang de Jésus-Christ. On nous accuse. Oh, t'as prié que 5 minutes aujourd'hui. Oh, tu as pas bien prié. Tu as mal prié. Tu as fait telle et telle chose. Oh, Gino, t'as encore regardé un match de foot? Combien de fois elle veut nous accuser. Et Timothée doit également réagir dans cette vérité. Il doit remettre de l'ordre. Voilà le combat, le bon combat, c'est de garder la foi, la parole de Dieu et avoir une bonne conscience envers Dieu au premier et envers tous les hommes et les femmes qui sont alentour de nous. L'apôtre Paul dit dans Actes au chapitre 24 au verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » De Timothée également, « Je sers avec une conscience pure. » Quelques-uns ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage, ici, veut dire ils ont ignoré la vérité. Ils ont préféré écouter leur conscience qui était erronée que la bonne conscience qu'ils avaient entendue. J'ouvre une parenthèse et je la ferme aussi vite par rapport à ces deux personnes. Moi, je crois et je peux me tromper. S'ils sont chrétiens, ils reviennent à la repentance. Je referme cette parenthèse. Mes frères et sœurs, sache qu'aujourd'hui, tu dois combattre le bon combat. Tu es sur ce ring de tous les jours et une conscience pure peut que te plaît. Que peut t'apporter que du plaisir et de la satisfaction du bien-être. Alors, cette semaine, je t'encourage à combattre le bon combat, non pour remporter la victoire, mais de garder la vérité et une bonne conscience. Que Dieu vous bénisse.